Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous serez aussi attentifs que pendant l'histoire pour les enfants. J'étais très frappé de voir à quel point les enfants étaient attentifs, à quel point les adultes, vous avez écouté avec attention. Je trouve ça génial. Et à voir votre sourire, je vois que vous êtes heureux d'être là, heureux d'être le sabbat, heureux de pouvoir vous réunir avec les petits, les grands, les adultes, tous ensemble en église. Mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire que d'être une église? Qu'est-ce que c'est que l'église? Mis à part le fait que c'est le lieu où nous nous réunissons le samedi matin. Et par rapport à cette église, qui sommes-nous? Nous qui sommes là. Vous savez probablement que la Bible utilise différentes images pour parler de l'église. Il y a par exemple l'image, là je vais demander de mettre mon ordinateur à l'écran. Ah. Et voilà. Il y a l'image de l'église qui est famille de Dieu. Et chaque image nous apprend quelque chose et répond à certains besoins. Par exemple, quand on parle de la famille de Dieu, on dit par exemple que nous sommes convaincus que Dieu est notre Père et que nous sommes réunis autour de lui en tant que frères et sœurs, qu'il n'y a pas de différence entre nous parce que nous avons tous le même Père et que nous avons tous besoin d'une famille, nous avons tous besoin de communauté, d'une identité qui nous unit, d'un groupe aussi qui nous apporte affection et soutien. Un groupe où chacun se sent accepté, aimé pour ce qu'il est, sans distinction aucune. L'image de la famille. Dans l'Apocalypse, puisque nous sommes en train de l'étudier pendant l'école du sabbat, il y a aussi cette belle image de l'église chandelier. Différentes églises, mais chacun un chandelier particulier. Et avec cette particularité que Jésus se trouve au milieu. C'est une image importante dans les moments difficiles que décrit l'Apocalypse. Les persécutions à l'époque de Jean, mais les temps difficiles encore aujourd'hui. Savoir que Jésus marche au milieu de nous, quelles que soient les difficultés. Et que l'Église et nous sommes même comme des étoiles qu'il tient dans sa main. Chaque Église différente, mais chacune au cœur de l'attention du Christ et de son affection, même si parfois les difficultés font craindre le pire. Autre image de l'Apocalypse, et avec un enseignement complètement différent, c'est l'image de l'Église qui est l'épouse, qui est la mariée, symbole de l'amour qui unit le Christ à l'Église et à nous. Image aussi de l'espérance, l'espérance joyeuse en attendant la fête des noces. Et ainsi, chaque image apporte un enseignement différent. Vous connaissez probablement aussi cette image-ci, Église en tant que corps du Christ, effectivement, où chacun doit trouver sa place. Et l'apôtre Paul utilise cette image particulièrement dans un contexte de tension entre les membres d'Église. On est ensemble corps du Christ. Et chacun est membre de ce corps du Christ. Chacun membre en particulier, différent, oui, avec un rôle différent, oui, mais chacun membre indispensable. Et si parfois les relations peuvent être fiévreuses ou tendues, eh bien il est important que, ensemble, on apprenne à former un corps harmonieux et en bonne santé. Et de cette façon, nous pourrions multiplier les images. Chacune correspond à un contexte particulier, répond à un besoin particulier. Chaque image est une promesse, mais en même temps, une mission que nous recevons. Alors dans ce contexte, on peut se poser la question, et nous, Église de Woluwe, quelle image choisir? Comment définissons-nous notre mission? À quoi sommes-nous appelés à répondre, à donner des réponses? Bien, pour ce matin, pour vous en parler, j'ai choisi une image particulière. Chers frères et sœurs, l'image que j'ai choisie pour vous, c'est une brique. Et vous savez qu'en matière de briques, il y a différentes sortes, hein, il y a différentes couleurs. Donc voilà, j'en ai choisi deux pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Des grandes, des petites, des couleurs différentes. Vous ne le saviez peut-être pas encore, mais vous êtes tous des briques. Des pierres, des cailloux. Alors, ça donne l'impression que je vous insulte un peu, hein, en disant vous êtes des pierres. Ce n'est pas mon objectif. D'ailleurs, je vais reformuler, ce n'est pas vous qui êtes des pierres, des briques, c'est nous qui sommes des briques. Vous avez peut-être remarqué que dans le texte qui a été lu tout à l'heure, l'apôtre Pierre parle de cette image en disant que, à l'exemple de Dieu, à l'exemple de Christ, nous sommes appelés à être des pierres, mais des pierres vivantes. Et là, il transforme un peu cette image quand même, parce qu'aucune de ces deux pierres ne va prendre la peau de d'escampette, va commencer à marcher et à parler. Aucune de ces deux briques n'est vivante. Mais nous, nous sommes appelés à être des pierres vivantes. Vous savez, quand l'apôtre Paul en parle, s'il en parle, ce n'est pas par accident. Ce n'est pas un pur hasard. Vous rappellerez certainement que non seulement son nom est significatif, puisqu'il s'appelle Pierre. Heureusement que son nom n'est pas brique, ce serait quand même un peu plus difficile. Mais ça rappelle le moment où, dans son cheminement avec le Christ, à un certain moment, Pierre donne une belle confession de foi. Jésus, au moment où il dit « Mais qui dit-on que je suis ?» Puis ensuite, mais qui dites-vous que je suis? Bien, il y a Pierre qui répond, qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus n'hésite pas à le féliciter et en même temps à le responsabiliser. Et il le fait avec un jeu de mots, en disant, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. Alors, en tant que bon adventiste, vous savez très certainement que les théologiens continuent à se disputer encore aujourd'hui pour savoir qui est ce fameux fondement. Est-ce que c'est Pierre sur qui on va construire l'Église, la personne de Pierre? Est-ce que c'est plutôt la confession qu'il a donnée? Ou est-ce que c'est le Christ? Alors, ce matin, je ne vais pas entrer dans la discussion. Ça ne vaut pas la peine. Ce que je retiens, c'est que pour Jésus, Pierre devra jouer un rôle important dans la construction de son Église. Mais l'apôtre Pierre, quand plus tard il va écrire sa lettre aux chrétiens, il va faire comprendre que ce n'est pas uniquement lui qui est concerné, mais que c'est chaque chrétien qui est appelé à être un élément important dans la construction de l'Église de Christ. Et c'est donc dans ce contexte-là que je vous invite à relire avec moi ce que Pierre dit dans sa lettre. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. La première partie de ce que l'apôtre Pierre dit donne en même temps déjà une réponse à cette préoccupation des théologiens. Puisqu'il dit que c'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est la pierre vivante. Une pierre vivante. Et donc, en fait, le seul fondement, la seule fondation de cette maison que le Christ veut construire. En même temps, il dit, c'est une pierre vivante rejetée par les humains, mais en même temps choisie et précieuse aux yeux de Dieu. rejeté. Oui, le Christ a été rejeté. Et l'exemple par excellence, bien sûr, a été sa mort sur la croix. Il n'a pas été accepté. Mais en même temps, il n'est pas une pierre morte, il est une pierre vivante. Il est ressuscité, il est vivant. Il a été choisi par Dieu, élu par Dieu, il est précieux. Une pierre vivante. Alors vous avouerez que, d'ailleurs cette pierre vivante est appelée un peu plus loin dans le texte la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'était à l'époque la pierre principale qu'on mettait dans le coin, dans l'angle du bâtiment, pour bien soutenir toute la construction. D'ailleurs, parfois, dans les tout vieux bâtiments, on en voit encore aujourd'hui. Autrement dit, Jésus est la seule pierre sur laquelle la maison peut être construite. C'est cette pierre-là qui donne sa solidité à l'édifice. Et c'est pour cela que, en matière de pierre angulaire, j'aime bien la représenter de cette façon-là. Car pour pouvoir être cette pierre angulaire, eh bien Jésus-Christ s'est donné tout entier. Si le bâtiment existe, s'il permet la vie à l'intérieur, si ce bâtiment est bien de niveau, eh bien c'est grâce à Jésus-Christ. Aucun autre être humain, que ce soit l'apôtre Pierre, que ce soit le pape, que ce soit un ancien, que ce soit un pasteur, que ce soit le président, peu importe, aucun être humain ne peut être cette pierre angulaire. Notre Église doit être construite sur le Christ ou elle n'est pas. Et ça, c'est le fondement absolu. C'est pour cela que le texte nous dit « Approchez-vous de cette pierre vivante ». Pour nous, les croyants, nous approcher de cette pierre vivante n'est pas quelque chose d'innocent non plus. On pourrait dire, je crois en Christ, j'ai accepté le salut, j'ai accepté sa mort sur la croix, c'est très bien, je me limite à ça. Mais il faut croire que cette vie veut être contagieuse. C'est pour cela qu'il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, et vous-même comme des pierres vivantes. Autrement dit, ce que le Christ veut, c'est nous transformer, nous aussi, en pierres vivantes. Alors c'est vrai, c'est une image très paradoxale, parce que par essence, une pierre n'est pas vivante. Elle est froide, elle est dure, elle est morte. Et pourtant, le Christ veut nous transformer, veut faire en sorte que ce qui peut être dur et froid en nous devienne vraiment vivant. Vous-même comme des pierres vivantes, mais avec un objectif bien particulier. Puisqu'il dit, construisez-vous pour former une maison spirituelle. Ce que Jésus veut, c'est construire cette maison spirituelle. Alors il est intéressant d'essayer de remettre ce texte dans son contexte de l'époque. De se poser la question, mais en quoi est-ce que ce que l'apôtre Pierre disait, en quoi est-ce que c'était important pour les auditeurs de ce moment-là? Alors, il faut savoir que l'apôtre Pierre a écrit sa lettre juste après la destruction du temple en 70. Ça a été une catastrophe terrible. Non seulement l'invasion des Romains, mais surtout la destruction de Jérusalem et particulièrement du temple. Juifs, mais aussi chrétiens, chrétiens d'origine juive ou chrétiens d'origine païenne, tous se sont sentis déboussolés, désorientés par cela. Parce que la disparition du temple, c'était aussi la disparition d'un élément important de leur vie de foi. Quand on lit le livre des Actes, on se rend compte que même les chrétiens, chaque jour, continuait à aller au temple, qui se réunissait là-bas. Et l'apôtre Pierre, suite à cette catastrophe qui est arrivée, cette destruction de tout ce qui symbolisait la présence de Dieu, bien, il va écrire sa lettre. Et sa lettre va commencer comme cela. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été choisis et qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie. En fait, c'est en Asie mineure, cette partie-là de l'Asie. Donc il s'adresse à ceux qui ont été jetés dans la dispersion, dans ce qu'on appelle la diaspora. Et un peu plus loin dans son épître, il va parler de ces chrétiens qui sont des exilés, des étrangers, des voyageurs sur la terre. Alors quelque part, nous nous reconnaissons tous, parce que nous savons que notre véritable patrie se trouve ailleurs, nous dit l'apôtre Pierre. Nous attendons cette patrie que Dieu nous prépare. Mais entre-temps, bien on vit dans cette dispersion. Et il faut remarquer que l'apôtre Pierre, il s'adresse plus particulièrement à ceux qui vivent donc en Asie mineure. Des personnes qui sont doublement étrangers. C'est-à-dire qu'ils sont étrangers parce que ils sont... Ils sont dans la diaspora, c'est-à-dire ils ont dû fuir leur pays, ils sont étrangers comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. On arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre, et souvent, ils sont confrontés au même genre de problèmes, ils sont mal considérés, ils sont confrontés à la suspicion de la population autochtone parce qu'on ne les connaît pas, parce que c'est d'autres cultures. Et puis, effectivement, il y a cet autre élément important, tout ce qui nous différencie. Et qui se remarquent. Différentes cultures, différents langages, des habits, des coutumes. À l'époque, ils étaient considérés en tant qu'étrangers comme tout à fait à part. C'est-à-dire qu'ils avaient un statut entre celui d'esclave et des citoyens. Ils n'étaient pas vraiment esclaves, non. Mais ils n'étaient pas vraiment citoyens non plus. Quelque part entre les deux. Un statut difficile. Et l'apôtre Pierre, il est conscient de cette difficulté d'être étranger, marginal, mais en plus, mal considéré aussi à cause de leur foi. Parce que être chrétien à l'époque n'était pas une fierté, n'était pas considéré comme quelque chose de normal. Alors il est vrai que à l'époque où l'apôtre Paul écrit, Pierre, où il écrit sa lettre, on n'a pas de traces de persécution physique. Mais, par contre, comment était-on considéré? Pierre, il est conscient que les chrétiens étaient souvent accusés, calomniés, insultés, injuriés. Et je voudrais vous lire un petit passage d'un historien, le plus grand historien latin de l'époque, qui décrit cette situation. Et qui se situe à peu près à la même époque, c'est-à-dire la fin du règne de Néron. Voici ce qu'il dit. Pour anéantir la rumeur, c'est la rumeur qui attribuait l'incendie de Rome à l'empereur, donc on sait historiquement que c'était bien Néron qui avait allumé l'incendie de Rome, mais Néron, il va faire retomber cette culpabilité sur les chrétiens. Donc pour anéantir la rumeur, Néron supposa des coupables et infligea des tourments raffinés à ceux que leurs abominations faisaient détester et que la foule appelait chrétiens. Alors j'ai mis les mots importants en jaune et en grand, qui reflétaient les sentiments des contemporains des chrétiens de l'époque. Ce nom leur vient de Christ, que sous le principat de Tibère, Ponce Pilate, le procureur, avait livré au supplice, réprimait sur le moment cette détestable superstition, perçait de nouveau, non seulement en Judée où le mal avait pris naissance, mais encore à Rome, où ce qu'il y a de plus affreux et de plus honteux dans le monde afflue et trouve une clientèle. On commença donc par se saisir de ceux qui confessaient leur foi, puis sur leur révélation d'une multitude d'autres dont leur crime fut moins celui d'incendie que de haine contre le genre humain. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on disait des chrétiens? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément considéré non plus comme un grand honneur, comme un privilège d'être chrétien. C'est quelque chose qui devient de plus en plus marginal. Mais avouez que c'est rien en comparaison avec ce qu'on lit là. L'apôtre Pierre, lui, est donc conscient de cela. Et il est conscient que cette dispersion va jeter tous les chrétiens dans une aventure extrêmement difficile. Ils sont désorientés parce que le temple n'existe pas et leur vie devient compliquée. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, existaient déjà différentes tendances dans le monde chrétien. Vous aviez d'un côté ce qu'on appelle les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les juifs devenus chrétiens, qui avaient leur tendance, et on le lit dans le livre des Actes, mais aussi dans le livre des Galates, par exemple, ils avaient la tendance d'être extrêmement rigoristes, tellement ils étaient attachés à la loi. Aujourd'hui, on dirait légalistes. Certains écrits du Nouveau Testament vont s'adresser particulièrement à eux. Je pense à l'Évangile selon Matthieu, mais aussi l'Épître aux Hébreux, des écrits qui essayent de nuancer, de relativiser un tout petit peu cette tendance. De notre côté, et particulièrement en Asie mineure, il y avait des pagano-chrétiens, c'est-à-dire des personnes qui avaient grandi dans un pays païen, dans la foi, ou dans une culture païenne, une religion païenne, devenus chrétiens. Qui mettait l'accent, par exemple, sur la liberté, sur la philosophie, influencée par les philosophes grecs. L'évangile de Jean va s'adresser particulièrement à eux. L'épître aux Galates aussi, mais d'une autre façon. Puis entre les deux, il y avait aussi des païens, mais qui avaient subi une forte influence juive. C'est-à-dire des païens qui s'était d'abord joint à la synagogue, qui avait adopté un bon nombre d'habitudes juives, et qui ensuite était devenu chrétien. Et c'est à cette catégorie-là que l'apôtre Pierre s'adresse plus particulièrement. Des païens influencés par la pensée judaïque. Ces personnes étaient, comme tous les autres, désorientés. Parce que la disparition du temple bien signifiait pour eux une crise d'identité. Si le temple n'est plus là, où faut-il adorer? Si le temple n'est plus là, est-ce que ça veut dire que Dieu n'est plus là? En plus de cette crise d'identité, il y avait aussi l'exil. Et donc cette crise d'identité va prendre des formes extrêmement tangibles, parce qu'on devient étranger, exilé, et souvent, rien que pour cette raison-là, détesté. Crise d'identité, qui est-ce qu'on est vraiment? Mais aussi, interrogation théologique, parce que le temple, c'est la présence de Dieu. Alors dans un monde où les temples tangibles regorgent, difficile de se dire croyant mais sans avoir un temple tangible. Et c'est là, dans ce contexte-là, que le message de l'apôtre Pierre prend son importance. Il dit, c'est vrai, vous êtes exilés, c'est vrai, vous êtes en difficulté, aussi bien physiquement que spirituellement. Mais je vous donne un conseil, approchez-vous de lui, pierre vivante. C'est-à-dire que, on pourrait traduire littéralement par « continuez à vous approcher de Christ ». Même si c'est difficile, ou peut-être justement parce que c'est difficile, continuez à vous approcher de lui. Parce que les difficultés ne devraient pas nous faire oublier cet essentiel. Et parce que Jésus-Christ, c'est lui la pierre vivante. C'est lui la base, le fondement d'une vie vivante. Ce que l'apôtre Jean, dans son évangile, appelle une vie abondante. Mais surtout, vous-même, comme des pierres vivantes, soyez des pierres vivantes. Prenez appui sur Jésus-Christ qui est la pierre vivante. Et quel est l'objectif? Eh bien, l'objectif, c'est que tous ensemble, nous construisions une maison spirituelle. Autrement dit, ce temple a disparu, oui, c'est vrai. Mais à partir de maintenant, ce temple, c'est vous. C'est vous, individuellement, et l'apôtre Paul va le dire, votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous connaissez ce texte. Hein. Autrement dit, dans votre vie, eh bien, vous devenez un temple pour Dieu. C'est au travers de votre vie qu'on verra Dieu présent dans notre monde aujourd'hui. Et donc, maison spirituelle à former ensemble, en s'approchant chacun individuellement comme pierre vivante de la grande pierre vivante. Maison spirituelle, le temple. Mais le même mot signifie aussi une famille, une maisonnée, la famille que nous formons ensemble. Autrement dit, l'apôtre Pierre dit en quelque sorte, c'est vrai. À cause des persécutions, vous êtes des étrangers, vous êtes des marginaux. Mais dans l'Église, vous n'êtes plus des étrangers. Dans l'Église, vous n'êtes plus des marginaux. Vous êtes membres à part entière de cette famille. On constate que cette image de la pierre vivante, de cette maison spirituelle, a un sens qui répond à un besoin très particulier de l'époque, de ces chrétiens jetés sur les routes de l'exil, qui avaient un problème d'identité, qui ne savaient plus où ils en étaient. Bien, cette image va répondre à cela. Vous vous sentez méprisé? Bien, sachez qu'à partir de maintenant, vous êtes des prêtres. C'est-à-dire des personnes importantes. Et cet après-midi, lors de la réunion d'église, on y reviendra un tout petit peu sur cet aspect-là. De mépriser, dans l'église, vous devenez des prêtres, c'est-à-dire des personnes importantes. Vous êtes des sans domicile fixe, des marginaux, eh bien vous avez retrouvé une famille qui vous accueille, qui vous accepte et qui a besoin de vous. Vous êtes membre à part entière de la famille. Vous n'avez plus de temple, vous avez l'impression que il n'y a plus ce lieu qui symbolise la présence de Dieu. Eh bien, sachez que votre vocation, c'est d'être temple de Dieu, individuellement, mais ensemble. Et c'est au travers de vous, individuellement et en tant que communauté, que d'autres verront la présence de Dieu dans ce monde. Et on constate donc que chaque image, et cette image de la famille de Dieu, la maison spirituelle, ne fait pas exception, que chaque image qui représente l'Église répond à un besoin bien spécifique. Que chaque image remporte aussi une mission à accomplir. Et on peut se poser la question, et nous, en tant qu'Église de Woluwe, nous, chers frères et sœurs, qui sommes là, à quel besoin répondons-nous? Quel est notre profil? Dans quel sens sommes-nous Église? Ou est-ce que c'est uniquement par routine, par habitude? Oui, parce que si on ne venait plus à l'Église le samedi matin, on se sentirait un peu coupable, on se sentirait un peu désorienté. On se dirait, oui, je ne devrais pas être à la maison, je ne devrais pas être dans mon lit, il faudrait que je sois à l'église quand même. Est-ce que ça se limite à ça ou est-ce que nous avons conscience d'un rôle important à jouer? Et là aussi, cet après-midi, il sera important qu'on y revienne. Être une maison spirituelle, c'est important. Dieu compte sur nous. Mais ça implique aussi quelque chose. Ça implique que nous devons être des pierres vivantes. Parce que être famille de Dieu, être des prêtres, être des temples, c'est un privilège, oui, mais c'est avant tout une mission. Alors ça veut dire quoi une pierre vivante? Alors quand j'ai introduit cela sur dans Google, j'ai trouvé quelque chose que je ne savais pas. Ceux qui ont un aquarium d'eau de mer mettent souvent des pierres vivantes dans cet aquarium. En fait, il s'agit de quoi ? Bien, il s'agit de pierres qui sont des concentrés de coraux et qu'on appelle pierres vivantes. C'est un peu étonnant. Alors, ce n'est pas du tout à cela que l'image fait allusion, hein, dans l'apôtre Pierre. D'abord, on serait obligé de nager et on risque de se noyer. Mais surtout, ces pierres-là, on les appelle vivantes, mais vous avez compris que c'est à base de coraux qui sont morts. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif de Jésus-Christ, c'est que nous soyons bien vivants. Et bien plus que cela. Pour revenir au texte, comment être une pierre vivante ? Bien, l'apôtre Paul nous le dit en quelque sorte. Il faut construire, c'est-à-dire il faut être basé, il faut être fondé sur celui qui est la pierre vivante. La vie que nous pouvons rayonner autour de nous, elle nous vient de cette pierre vivante. Si nous ne trouvons pas sur lui, fondé sur Jésus-Christ, il n'y a pas de vie en nous. Cette qualification de vivante, pierre vivante, encore une fois, elle est très contradictoire. Parce que elle est en contradiction avec l'élément pierre. Parce qu'une pierre, par essence, n'est pas vivante. Ça montre que c'est un miracle que Dieu veut faire en nous. Mais c'est en même temps quand même une invitation aussi à ne pas rester ce que tout naturellement nous sommes peut-être. Dur, froid, immobile, difficile à bouger. Et l'apôtre Pierre, dans ce qui précède dans le texte, et c'est pour moi probablement l'élément le plus important, il dit ceci. « Comme des enfants nouveau-nés, aspirez au lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté la bonté du Seigneur. » Autrement dit, une pierre est vivante, non pas quand elle reste bien dans son cadre, mais quand elle grandit, quand elle accepte de grandir. Et pour cela, bien l'apôtre Pierre le fait comprendre, il faut que la parole joue un grand rôle en nous. Mais j'ai souligné aussi ou entouré cette petite phrase, si vous avez goûté la bonté du Seigneur, si nous avons ressenti, vécu dans notre vie à quel point le Seigneur est bon, à ce moment-là, nous pouvons devenir pierre vivante. Vous remarquerez que dans ce texte, il y a un lien entre la croissance personnelle et la croissance de l'Église, la construction de l'Église. Il y a un lien, mais aussi interaction, parce que sans croissance spirituelle personnelle, l'Église ne grandira pas non plus. Mais en même temps, cette Église, si elle est harmonieuse, si elle est en bonne santé, elle m'aidera moi aussi à grandir. Il y a cette interaction. Être vivant, être une pierre vivante, bien, c'est plus que simplement être présent. C'est apporter ce que Christ a apporté dans votre vie. Être vivifiant. Vivifiant pour soi, mais aussi et surtout pour les autres. L'apôtre Pierre va l'expliquer d'une autre façon, un peu plus loin dans son épître, au chapitre 4, quand il donne ce conseil, que chacun mette au service des autres, et j'ouvre une petite parenthèse, quand il dit « service », le mot grec c'est « diakonia », c'est-à-dire « diakona ». Pour nous, le diakona c'est souvent quelque chose de très formel, de bien organisé, parce qu'en réalité, c'est très spontané. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons attendants de la grâce si diverse de Dieu. Être au service. Si on a goûté la bonté de Dieu, eh bien on peut se mettre au service de Dieu. Semer la bonté. Vivifier à l'exemple de Jésus. Alors bien sûr, je pense que parfois cela vous arrive de penser comme moi, je le pense aussi, parfois. Tout ça c'est bien bon, mais est-ce que j'ai un don? Est-ce que j'ai un don que je peux mettre à disposition? Ça m'arrive souvent d'ailleurs de rencontrer des personnes quand on parle de nomination ou d'organisation de l'Église. Moi, je ne sais rien faire, je n'ai pas vraiment de don, je ne sais pas. Et pourtant, l'apôtre Pierre dit que chacun met au service des autres le don qu'il a reçu. C'est une affirmation. Et il ajoute, et ce mot-là, je vais le souligner, que chacun. Autrement dit, cette Église ne sera véritablement Église que si chacun est une pierre vivante. Si chacun accepte de jouer son rôle de pierre vivante. Si chacun accepte de se mettre au service de l'autre. Il y a d'autres textes, je vais passer très rapidement, où l'apôtre Paul affirme la même chose. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit accorde à chacun un don différent. Chacun doit juste se poser la question, quel don est-ce que je peux mettre à disposition? Comment est-ce que je peux aider cette Église à remplir véritablement sa mission? Au bout du compte, je me pose la question et je vous transmets la même question. Quel genre de pierre est-ce que je suis? Est-ce que je suis dans cette Église une pierre décorative, présent simplement pour se montrer? Ou peut-être une pierre qui forme un mur de séparation? Ou peut-être une pierre sur laquelle les autres trébuchent de temps en temps parce que on rue un peu dans les brancards? Ou peut-être une pierre qui sert à lapider l'autre, à accuser? Ou est-ce que nous sommes des pierres vivantes? Si vous avez goûté la bonté du Seigneur, bien je suis convaincu que vous ressemblez à cette pierre-là. Et je prie que chacun puisse regarder dans son cœur et constater que c'est bien cela que nous voulons être. Des pierres qui ont un cœur pour le Seigneur, un cœur pour les frères et sœurs, un cœur pour tous ceux qui nous entourent et qui cherchent le Seigneur, un cœur pour cette famille spirituelle que nous formons ensemble. Je vous laisse méditer cela.